Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Capi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Capi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, professeur Adela Kwandeka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et avec vous, nous allons parler des conséquences du travail des enfants et comment lutter contre cela. Ils sont nombreux, ces enfants qui ne vont pas à l'école car leurs parents n'ont pas d'argent pour payer les frais scolaires. Alors, ils travaillent et pour se vivre, on les retrouve dans les petits commerces, dans les carrières des mines, du Katanga. Beaucoup d'enfants travaillent dans les champs et d'autres sont casseurs de pierres, on les retrouve en train de casser des pierres. Voilà, dans les chantiers de maisons en construction, ils travaillent pour trouver, pour gagner un prix d'argent. Alors, quelles sont les conséquences du travail des enfants?
Bien, merci. Donc, je crois que avant de commencer de parler des conséquences, il faut situer les causes.
Allez-y.
Je crois que vous avez suggéré en fait ces causes-là.
Mmh.
L'une des causes principales, c'est d'abord la pauvreté des parents. Vous savez, les parents sont très très pauvres, surtout ces derniers temps. Même ceux qui travaillent ne gagnent pas une somme d'argent qui puisse leur permettre de louer le début du mois, de prendre en charge leurs enfants, de les scolariser, de les faire soigner, de les alimenter comme il faut. Alors, comme ces enfants se sentent en insécurité, ils ne peuvent pas manger normalement, alors ils se prennent en charge eux-mêmes. Et l'autre problème consécutif à la pauvreté, il y a le chômage. Il y a le chômage. Il y a des pays que le pays a connu le pillage de crise mémoire jusqu'à présent. Et ce pillage qui était suivi plus tard par les différentes guerres.
Oui.
Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises ont été pillées, beaucoup de personnes sont au chômage, et de sorte qu'ils ne peuvent pas assurer la charge de leurs enfants. Il y a également une hyper-religiosité mal contenue qui pousse les familles à des naissances trop nombreuses et au refus de la planification familiale. Ces enfants qui naissent de façon involontaire et sans moyen de les prendre en charge se retrouvent du jour au lendemain, soit dans la rue, soit en train de se débrouiller, soit carrément ils abandonnent leur maison pour aller travailler, pour survivre. Ouais. Mais il y a aussi des petits-enfants, toujours au cours de la pauvreté, qui travaillent pour non seulement se prendre en charge eux-mêmes, mais aussi pour aider, pour contribuer au budget de la famille.
Oui.
Donc, ça, c'est aussi une des causes.
Oui, on peut aussi dire que lorsque les parents décèdent, les enfants sans moyens peuvent se retrouver dans la rue en train de vendre.
Oui, c'est en fait l'abandon des enfants. Vous savez, il y a des enfants qui sont abandonnés, justement quand les parents sont décédés, que les autres membres de la famille ne peuvent pas les prendre en charge. Alors, ces enfants se retrouvent dans la rue en train de travailler. Mais parmi ces enfants, il y en a quand même qui travaillent, mais qui se débrouillent quand même pour faire pour étudier montant pour finalement fréquenter l'école. C'est-à-dire qu'ils travaillent le matin, notamment dans les villes, ils travaillent le matin. Et s'ils sont de l'après-midi, l'après-midi, ils vont au cours. Ou bien ils font le temps de congé, c'est-à-dire ils vont au cours le matin et l'après-midi, ils font, disons, travailler. Mais tout cela, c'est pas toujours c'est dérisoire, hein, ce qu'ils gagnent pour leur permettre de travailler effectivement ou d'étudier effectivement. Donc voilà, en quelque sorte, à quelques mots, certaines des causes qui poussent les enfants à travailler.
Alors, lorsque les enfants ne vont pas à l'école, ils se mettent à travailler pour gagner toute la journée durement pour avoir un peu d'argent. Alors, quelles sont les conséquences qui en découlent?
Les conséquences sont multiples. Et quand les enfants ne vont pas à l'école, on dit que les enfants sont la société de demain. Quand ils ne vont pas à l'école, il y a l'avenir même des pays qui sont obligés. Donc, je pense qu'il y a d'abord une augmentation de l'analphabétisme et de l'illettrisme chez les jeunes. Quand les enfants ne sont pas socialisés aujourd'hui, ne sont pas instruits aujourd'hui, ils ne vont pas à l'école aujourd'hui, aucun miracle ne se produira pour que les enfants soient utiles à eux-mêmes demain et utiles à leur société. Donc il y a l'augmentation de l'analphabétisme et de l'illettrisme qui présage, n'est-ce pas, un sous-développement. Parce que ces enfants ne sont pas utiles à eux-mêmes, ils ne peuvent pas non plus être utiles à la société. Il y a également les ennuis de santé. Vous avez évoqué des enfants qui sont dans des mines, qui sont utilisés dans des champs, etc. Ces enfants-là, leur santé est exposée. Dans les mines, il y a beaucoup de problèmes qui se passent là. Ils peuvent être ensevelis en cas de mouvement, parce que ce sont des cas qui arrivent souvent aussi. Ils peuvent être mordus par les serpents lors de travaux méchants. Ils peuvent succomber à la suite d'un accident, parce que notamment avec l'embarcage du brossard, les enfants ne sont pas très attentifs, donc ils peuvent connaître des années. Ils peuvent également, ces enfants vivent dans une insécurité croissante. Ceux qui travaillent, ceux qui se promènent, les petits vendeurs ambulants qu'on voit ici à Kinshasa, le vendeur d'eau en sachet, le vendeur d'articles manufacturés, tous ces gens-là sont exposés à une grande insécurité. Ils peuvent être écrasés par une véhicule, ils peuvent être, malmenés par des voleurs, des malfaiteurs, et même aussi qui s'adonnent à des travaux à la prostitution, qu'ils considèrent comme travail aussi. Ces filles-là sont exposées à l'insécurité nocturne par des bandits comme ça.
Nous avons un auditeur en ligne, Théodore Mbouyamba, il nous appelle à Mbouzouna, il est dans la province du Kassai Oriental. Vous voulez également participer? Le standard est déjà ouvert, composé de 081-890-6394. Nous parlons des conséquences du travail des enfants et comment lutter contre ce phénomène.
Vous êtes jeune? Vous êtes curieux? Nous avons de l'énergie à partager ensemble tous les jours sur Radio Okapi. De 15 à 17 heures, c'est Total Énergie. 2 heures de musique, actu people, emploi, environnement. Nous ouvrons le dictionnaire dans J'aimerais savoir. Nous vous donnons aussi la parole dans Regard d'avenir, Point de vue et Portrait de jeune. Chaque jour, jouez avec une question de connaissance générale. Pour mettre le code de 15h à 17h sur Radio Okapi, Total Énergie, c'est l'énergie totale.
Quelles sont les conséquences du travail des enfants? Théodore Mbouyamba est en Boujimaï, bonjour.
C'est Daniel.
On vous écoute.
Bon, le travail des enfants moins de 18 ans amène toujours des faits néfastes, comme les vols, la débauche, l'alcoolisme et les bagarres entre eux. Tout ceci arrive parce que cet enfant vit d'abord dans un milieu inhabituel, sans assistance aucune. Ici, à Boujimaï, par exemple, au marché sinistre, notre marché central, il y a un groupe d'enfants qui travaillent comme porteurs, les enfants moins de 18 ans.
Oui.
Ils travaillent comme des porteurs, des commissionnaires aussi.
Qu'est-ce qu'ils portent généralement, les sacs de maïs hein?
Oui, ils portent des sacs de fruiteries, de maïs, des sortes comme ça, des cartons, qui pèsent là. Et puis, il y a aussi des enfants commissionnaires. Vous trouvez un enfant de 14 ans qui fait la commission et qui réussit à le faire ici en Boujimaï au marché sinistre. Et comme conséquence, c'est quoi? Ils ont l'argent. Comme ils ont l'argent, ils courent derrière les femmes. Ce sont des bagarres généralisées entre eux-mêmes. Et il y a même le service de la police qui assiste à cela. Et on ne le réprimande jamais. Et nos villageois qui viennent de l'intérieur, ils arrivent au marché, ils sont victimes. Ils sont victimes quand ils arrivent, par exemple, c'est l'argent qui part, c'est le commissionnaire mal placé. Bon, il travaille, il dérange. Mmh. Alors, c'est pourquoi je pose une petite question à notre invité. Mmh. Qu'est-ce que les organismes nationaux ou internationaux, peuvent faire pour faire respecter les obligations ou bien les droits de l'enfant face à l'éducation, à la santé et à son environnement, et surtout quand les parents sont déjà morts ou sans travail?
Merci, c'est Adela Kondata.
Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi la question de votre auditeur.
Oui.
Je crois que, en fait, dans le pays, comme au niveau international, il existe des textes, des instruments juridiques qui protègent l'enfant. Nous avons ici, en ce qui concerne le Congo, la loi portant protection des enfants, ce qui interdit, n'est-ce pas, qui dit que, en fait, qui définit d'abord ce que c'est l'enfant. Donc, l'enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Et bien sûr, il y a des dispositions qui interdisent le travail des enfants. Mais, malheureusement, ces dispositions ne sont pas respectées. Les textes juridiques qui protègent, qui interdisent le travail des enfants, ne sont pas donc respectées.
Oui.
Je crois qu'il faut d'abord une vulgarisation. Alors, pourtant, protection des enfants n'est pas du tout vulgarisée. Je ne sais pas, en bout de chemin, si vous pouvez mener une petite enquête en demandant aux policiers s'ils savent qu'il est interdit de faire travailler les enfants de moins de 10 ans, je crois que beaucoup d'entre eux vont s'étonner. Pas seulement eux, d'autres personnes, même des personnes qualifiées, des personnes intellectuelles, même des législateurs. Donc, cette loi portant protection des enfants n'est pas suffisamment vulgarisée.
Bien.
Parce que si la loi était vulgarisée, on serait en même... on devrait en fait l'appliquer où tout le monde devrait être au courant. C'est pour dire que en fait ce foisonnement du travail des enfants résulte des dysfonctionnements des institutions sociales censées répondre aux besoins des enfants. Vous avez le ministère des Affaires sociales.
Oui.
Et il y a là des dispositions qui sont prévues pour la prise en charge des enfants, notamment ceux qui ne sont pas scolarisés. Ceux qui ne sont pas scolarisés, on devrait prévoir les questions de formation. Il y a des centres de formation professionnelle qui sont prévus, qui devraient les prendre en charge. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Des enfants orphelins. Nous avons combien d'orphelinats ici? Et comment fonctionnent les orphelinats? Je crois qu'on peinerait à identifier des orphelinats. Par exemple, dans le cas de Moujiba, je ne sais pas combien il y en a, mais ici, il y a une certaine. Je ne vois pas vraiment de orphelinats qui sont gérés par le pouvoir public.
Bien
sûr, les orphelinats peut-être qui sont organisés par des particuliers, des organisations religieuses, mais l'État lui-même n'a pas ces orphelinats. De sorte que quand les parents meurent, ces enfants sont livrés à eux-mêmes, notamment si il n'y a pas au niveau de famille respective de leurs parents, de personnes qui peuvent le prendre en charge.
Voilà.
Donc là, c'est une interpellation qu'il faut lancer au pouvoir public pour qu'il respecte ses engagements.
Papa Malonga nous appelle de Bandundu-Ville, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Bon, ma question est basée seulement sur notre sujet. Puisque les cas d'enfants qui sont soumis aux grands travaux, en tout cas, c'est généralisé. Dans des villes, il y a des vendeurs d'eau froide, dans des villages, il y a ceux qui sont exploités dans des carrières de mines, dans des champs.
Mmh.
Alors ma question est celle-ci. À qui on peut attribuer cette faute?
Merci, c'est le professeur Adela.
À qui on peut attribuer la faute du fait que les enfants ne travaillent pas? Je crois que la faute, la responsabilité est partagée. Mais la première responsabilité incombe à l'État. Dans la mesure où, dans le pays, il existe la loi qui interdit le travail des enfants sous toutes formes, donc ce travail n'est pas légal. Mais il n'y a pas de mesure d'application pour accompagner cette loi qui interdit le travail des enfants. Mais il y a aussi les parents. Les parents, bien sûr, leur faute peut connaître des circonstances atténuantes.
quand ils sont pauvres, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de quoi prendre en charge leurs enfants, et l'éducation des enfants les échappe. Ils ne peuvent pas donner des ordres à ces enfants qui ne prennent pas en charge, qui ne nourrissent pas, etc. J'ai dit au départ qu'il y a aussi des parents qui poussent les enfants à travailler. Par exemple, les enfants qui vendent des légumes, des produits manufacturés, etc. Mmh. Pour la plupart, ce sont les parents qui leur
donnent
cette marchandise.
Oui, professeur Adelard, on le remarque également sur les affaires de Kinshasa, des parents aveugles qui sont accompagnés de leurs petits-enfants pour réquémander.
Oui, voilà, ça aussi, bien sûr, ces parents aveugles qui sont pratiquement, qui coûtent très pauvres, qui ne peuvent pas se prendre en charge, pour que leurs enfants peuvent travailler pour eux en les aidant à mendier. Et là aussi, bien sûr, l'État a sa part de responsabilité dans la mesure où on devrait organiser des structures de prise en charge de toutes ces personnes, de sorte que les enfants ne puissent pas devenir des travailleurs pour aider ses parents aveugles à manger. Donc, je récapitule pour dire qu'il y a la part de l'État, il y a la part parce que l'État devrait faire en sorte que les parents soient d'abord capables de prendre en charge leurs enfants, donc en améliorant la situation familiale, et que les parents eux-mêmes, notamment ceux qui ont un certain moyen quand même s'ils n'ont pas les moyens, mais quand même, au lieu de faire travailler les enfants, ils peuvent, notamment ceux qui vendent des légumes et consorts, ils peuvent que s'en occuper et ne pas envoyer les enfants. Parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de dangers qui guettent les enfants à tous les niveaux, hein, que ce soit ceux qui travaillent en milieu rural, dans des champs, ou bien ceux qui travaillent sur le fleuve aidant à pêcher, ceux qui travaillent dans les grandes villes, tout ça, tous ces enfants sont donc exposés au danger. Et ceux qui emploient les enfants, notamment ceux qui, parce qu'il y a aussi des enfants qui travaillent pour les comptes de tierces personnes, effectivement pour leur famille, ceux qui travaillent pour ces enfants paradoxalement, et ceux qui travaillent pour ces gens, disons, ceux qui emploient les enfants, et de façon paradoxale, ne sont pas poursuivis par la loi. Donc, c'est quand même dommage, parce qu'on prend des textes, on les respecte pas et on ne les applique pas.
Bien. Adjin Mahamoudi nous appelle de Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour.
Bonjour, journaliste, bonjour à notre invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Repartir.
Nous parlons des conséquences du travail des enfants. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Pour moi, monsieur le journaliste, je peux vous dire que les conséquences sont nombreuses. Et pourquoi je le dis, c'est parce que vous serez ici chez nous, précisément dans la commune d'Alongoli. Vous voyez, il y a des enfants moins de 18 ans. Il travaille, par exemple. Il peut traverser les gens ici de l'autre côté. Et ils ont de l'argent pendant la soirée. Maintenant, quand ils ont cet argent-là, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent gérer cet argent-là. Au moment où ils sont les enfants, ils travaillent, ils étudient aussi. Et ils ne savent plus si les écoles existent. Ils ne veulent plus aller à l'école. Ce sont là les conséquences. Et en plus, ils ne respectent plus leurs parents à la maison. Est-ce que cela est clair? Cela est bien.
Voilà. Professeur Adelard, vous avez suivi des enfants dans la commune à Longoli, à Kindu, qui travaillent, qui gagnent de l'argent et qui ne respectent plus les parents, qui ne veulent plus retourner à l'école. Alors, ils demandent si cela est une bonne chose ou pas. Mais pour ces genres d'enfants, comment les récupérer?
Bon, bien, quand les enfants, juste comme je disais avant, quand les parents ne sont pas capables, quand les parents sont démunis, ils ne peuvent pas prendre en charge les enfants. Et que les enfants quittent, c'est-à-dire ils quittent la maison pour travailler eux-mêmes. Je crois que ce qu'il faut faire est d'abord stabiliser la vie familiale. Si les parents prennent en charge les enfants, si les parents pourvoient à tous les besoins des enfants, ils sont maintenant capables d'assurer la discipline, c'est-à-dire les enfants peuvent obéir parce qu'ils savent que s'ils n'obéissent pas, ils peuvent en trouver les conséquences, c'est-à-dire ils peuvent ne pas avoir ce dont ils ont besoin et que leurs parents leur donnent. Donc je crois que si ces enfants qui travaillent, s'ils travaillent pour préparer leur avenir, comme certains enfants que je vois le chassin qui travaillent le matin et qui vont à l'école après-midi, je crois que les parents peuvent les aider à gérer leur maître ressources et les conscientiser pour qu'ils aillent à l'école, comme ils ont quand même des petits moyens. Mais en fait, le travail des enfants est interdit et on doit saisir son type de travail, à condition bien sûr qu'on améliore la situation des parents.
Robert Kenda nous appelle des Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Je souviens bien sûr, monsieur le professeur, ce qu'ils ont parlé. Concernant les conséquences et les causes, le travail fait par les enfants. Même si ici, selon Cassos Central, nous avons enregistré encore certains problèmes, surtout les grossesses inattendues, les grossesses précoces pour les jeunes filles, et aussi le problème du banditisme aux garçons. Mais je voudrais peut-être poser la question à notre invité de savoir si, par exemple, l'enfant, dans le jeune âge, choisit son métier et commence à exercer ça petit à petit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que le parent puisse l'orienter selon son métier au lieu de l'envoyer directement à l'école? Par exemple, l'enfant choisit d'être charpentier. Et vous remarquez que l'enfant, dans son avenir, il peut devenir un charpentier.
Oui.
Soit il choisit le commerce. Est-ce qu'il n'y a pas des écoles où on peut orienter directement l'enfant au lieu de l'amener dans d'autres écoles qui peut-être ne vont pas avec ce que lui cherche comme son choix?
Oui, vous voulez parler des écoles de métiers?
Oui.
Oui, professeur Adela.
Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que l'auditeur dit.
Oui.
Je crois que il ne faut pas forcer la main des enfants. C'est-à-dire, on est médecin, il faut que nécessairement l'enfant devienne médecin. Je suis enseignant, il faut que nécessairement mon enfant devienne enseignant, etc. Il faut éviter, il faut associer l'enfant à la prise de décision qui concerne son avenir, qui concerne sa vie. Dans le cas d'espèce, il y a quelques années, il a existé des écoles d'apprentissage professionnelles. Mais de plus en plus maintenant, ces écoles sont en voie de disparition. De sorte que dans la ville de Michel, par exemple, il n'est pas facile de trouver un étudiant jeune, un enfant jeune. Et pourtant, il y a quelques années, notre pays était réputé, notamment après le départ des Belges. Les Belges nous ont laissé beaucoup d'écoles d'apprentissage, beaucoup d'écoles professionnelles. Ces écoles sont en train de disparaître aujourd'hui. Et la tendance, c'est d'envoyer tous les enfants dans une équipe réputée et tous les enfants à l'université. Pourtant, ce n'est pas dans d'autres pays, bien sûr, il y a des gens qui sont à l'université, mais on privilégie de plus en plus le métier des jeunes avec la formation des courses durées, la formation professionnelle. Et quand vous entendez parler de l'emploi des jeunes, mais tous ces jeunes pour lesquels on crée de l'emploi, on ne crée pas des emplois de bureau ou bien nécessairement des entreprises qui exigent des fonctions hautement qualifiées, non? Donc, si l'enfant veut devenir menuisier, il faut l'aider, l'orienter, chercher un centre où il peut s'épanouir en approfondissant l'apprentissage.
Voilà. Ah, donc, pour lutter contre le travail des enfants, vous avez dit la responsabilité incombe à l'État. Il faut ainsi stabiliser la vie familiale.
Oui.
Ainsi, les parents pourront retrouver le pouvoir de contrôler la vie de leurs enfants.
C'est ça.
Professeur Abelard Kwandaka, nous rappelons que vous êtes sociologue. Nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci.